Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Estival du Local, votre quotidienne du lundi au vendredi, tout l'été sur l'autre radio. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, lundi 8 août, comme chaque lundi, la chronique historique de Christophe pour découvrir ou redécouvrir un lieu de la Mayenne. Rendez-vous aujourd'hui dans une commune qu'on connaît surtout pour sa basilique et toutes les célébrations autour. Il s'agit de Pontmain. Bonjour Christophe.
Bonjour Marie. Aujourd'hui, cap au nord-ouest du département de la Mayenne à Pontmain, un petit village où s'élève une monumentale église que le pape, en 1905, érigea en basilique. Cela veut dire que l'Église catholique, par l'intermédiaire de son plus haut responsable, reconnaît un caractère exceptionnel au lieu. Alors, qu'est-ce que l'église de Pontmain a d'exceptionnel? En tant que monument, pas grand-chose à vrai dire. Elle a été construite entre 1873 et 1895 dans un style néo-gothique et peut accueillir un millier de personnes. Ce chiffre paraît disproportionné quand on sait que le village de Pontmain compte à peine une centaine d'habitants dans les années 1870. Alors pourquoi un tel édifice en plein milieu du bocage, loin de toute grande agglomération, et surtout, pourquoi une telle distinction papale? Eh bien, il faut remonter 2 ans avant le début de la construction de l'église pour le comprendre. On est alors en pleine guerre. L'empereur français Napoléon III est entré en conflit avec la Prusse, qui allait devenir l'Allemagne, à l'été 1870 pour une obscure question de prééminence européenne. C'est une catastrophe. Les Prussiens pénètrent rapidement sur le sol français, l'armée française subit défaite sur défaite, l'empereur est fait prisonnier, les Prussiens encerclent Paris, puis progressent vers l'ouest. Début janvier, ils investissent le Mans, on les attend en Bretagne. C'est dans ce contexte que, au soir du 17 janvier 1871, plusieurs jeunes enfants de Pontmain disent voir une apparition de la Vierge Marie, la mère de Jésus, dans le ciel de leur village. Les adultes ne voient rien, pas même le curé. Selon les dires des enfants, l'apparition dure 3 heures et délivre un message d'espoir dans le contexte de guerre. Dans les jours qui suivent, le conflit franco-prussien cesse. Pontmain ne verra jamais l'ennemi. Le curé fait la publicité de l'apparition. Certains voient un lien de cause à effet. Aussitôt, les pèlerins accourent à Pontmain pour voir les jeunes voyants leur parler. L'évêque dépêche dans les semaines qui suivent une enquête officielle chargée d'authentifier ou non l'apparition au nom de l'Église catholique. C'est chose faite dès février 1872. Désormais, l'apparition de Pontmain se place aux côtés des autres apparitions dites authentiques de la Vierge Marie, à commencer par celle de Lourdes qui date de 1858 et qui sont reconnues par l'Église depuis 1862. Le petit village de Pontmain, qui n'était qu'un hameau, devient chef-lieu de commune. Sa population passe à près de 600 habitants. Des auberges, des hôtels, des marchands de souvenirs ouvrent pour accueillir les pèlerins. Le pont principal, en bois, est reconstruit en pierre. Une gare de tramway est édifiée à la fin du XIXe siècle. Et puis surtout, la petite église du village, qui tient plus ou moins debout, n'est pas en capacité d'accueillir la foule des pèlerins. D'où la décision d'édifier, dès 1873, un gigantesque monument digne d'un grand sanctuaire. Aujourd'hui, Pontmain demeure un sanctuaire marial important, accueillant chaque année 300 000 pèlerins, tout particulièrement le 15 août, date de l'Assomption, fête célébrant pour les chrétiens l'enlèvement au ciel de la Vierge Marie. À bientôt pour une autre balade historique en Mayenne, à vélo cette fois-ci.
Et on a hâte d'enfourcher notre bicyclette, mais pour ça il faudra attendre le lundi 22 août. Pas de chronique la semaine prochaine exceptionnellement et pas d'émission d'ailleurs, puisque c'est un jour férié. Ce début de semaine signe le commencement d'un nouveau feuilleton, d'une nouvelle série. Après les coulisses d'un festival de théâtre la semaine dernière, pénétrons cette semaine dans les coulisses du refuge animalier de Château-Gontier, le refuge de l'Arche. Il a été fondé en 1974 et accueille plus d'un millier d'animaux blessés ou abandonnés qui s'y remettent sur pied. Et pour ça, ils ont besoin de toute une équipe aux petits soins et notamment des 6 soigneuses du refuge. Nous allons les suivre tout au long de cette semaine et on commence par la cuisine où sont préparés tous les repas. Audrey, soigneuse responsable de la cuisine, nous guide.
On commence notre journée à 9h. Alors, il y a Christophe qui va faire le ravitail. C'est-à-dire que tous les matins, on va chercher des denrées alimentaires, des fruits et légumes qui ne sont pas consommés par nous, les grandes surfaces de Château-Gontier. C'est essentiellement fruits et légumes. On a aussi du poisson, 2 fois par semaine qu'on va chercher, et un peu de viande aussi, et du poulet pour les fauves. En fruits et légumes, je pense qu'on est à 200-250 kilos par jour. C'est vrai que l'hiver, on a moins de choses que l'été par rapport aux fruits et légumes. On achète à côté. On joue beaucoup sur les dons et pour éviter de moins acheter. Où les filles font les préparations des médicaments, On stocke aussi des dons de figues. On a pas mal de dons aussi, croquettes chien, croquettes chat. Là, c'est la cuisine. C'est ici qu'on prépare les rations des animaux. C'est une grande pièce avec des étagères de fruits et légumes. On sépare les fruits et légumes. Il y a une étagère de fruits, une étagère de légumes, des palettes de pommes, carottes. On a une petite établie où on récupère tous les légumes des invendus de ce matin. Et comme ça, ça part tout de suite dans les rations de l'après-midi ou du lendemain. En général, on prépare toujours la veille pour le lendemain. Du coup, on prépare les oiseaux. Jean-Luc, là, il prépare pour les singes. Ce matin, j'ai préparé pour les babouins. Ça, c'est les babouins. On a une ration, en fait, établie par la vétérinaire du parc. Il y a les carottes, les légumes, la verdure, les fruits, pommes. Et après, on met toujours un petit extra, des graines. Là, on a reçu des palettes de fruits séchés. Donc, on leur donne des figues séchées. Ça va être des fruits qu'ils adorent. Donc, bananes pour les singes, bananes raisins, ils adorent ça. Pour les oiseaux, du coup, on leur donne fruits et légumes tous les jours avec de la salade. Et puis, ils ont des graines aussi en plus. Pour les fauves, c'est poulet. Deux fois par semaine, on leur donne de la viande rouge parce qu'ils adorent ça. Et après, on a tous les rapaces qui mangent des poussins. C'est stocké dans la chambre froide. Le frigo, c'est là où on stocke toute la nourriture qu'on prépare le jour même pour le lendemain. Ici, on a les poulets, les poussins, on a des rats aussi, des cailles. Viande rouge aussi, on achète. Des fois, on a des dons des abattoirs. Les filles donnent à manger aux animaux l'après-midi en général. Il y a toute une organisation. En général, on fait les singes, les oiseaux le matin. Et l'après-midi, on fait plus les rations à base de viande. Les rapaces, les fauves, les ours. Bonnie, c'est l'ours. Et, oui, Martha, là à côté. Donc, ils ont, en ce moment, Bonnie, il est à 35 kilos de fruits et légumes. Et Martha est à 20 kilos. Toutes les semaines, en ce moment, on augmente de... Donc, à la fin du mois, normalement, et même du mois de septembre, Bonnie sera à plus de 50 kilos de fruits et légumes. Là, ils prennent tout leur gras, comment dire, pour cet hiver. C'est la vétérinaire qui me dit, et les soigneuses en partie, qui me disent, par exemple, pour le cas de Bonnie, là, Bonnie mange tout, donc il faut augmenter. Ou alors, et Bonnie mange moins, donc on va baisser la ration. Ça, c'est en partie avec les soigneuses et la vétérinaire. On jauge comme ça. Toutes les semaines, oui, on fait un point par rapport à ça, par rapport aux rations de tous les animaux. Et les filles, les soigneuses, viennent ici prendre les rations et après elles partent avec pour faire le nourrissage. En général, on est trois. Là, on a une personne en plus, tant mieux. Mais en général, on est trois après à faire la tournée, le ravitail, plus toutes les gamelles. Peser, couper. Bon, il y a le tri aussi à faire qui prend du temps. Et puis, la vaisselle à faire aussi. Donc tout ça, ça prend du temps. Et en général, ça prend la journée.
Et demain, Audrey nous parlera de son parcours et nous emmènera dans la chambre froide avant que les repas ne soient distribués. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute attentive. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, l'Estival du Local, toujours à 7h30 et 12h15. Très belle journée à vous.